mot à mot. Mot à mot.
Tu dois dire A, c'est ça?
Tu mets. Ouais, je dis mot, tu dis à mot. Et après, tu dis mot et je dis à mot.
Ah bon, mais il avait dit A.
Je trouve que c'est super comme philosophie.
Mot à mot ou mot à mot.
Nous sommes tous pour autant que ces mots aient un sens précis.
Mot à mot.
Il n'y a que deux syllabes qui valent la peine d'être prononcées. Tu parles sans avoir la moindre idée de ce dont tu parles.
Il n'y a pas de mots pour dire ce que vous êtes. Il n'y a plus de mots.
Vous m'avez dit un tas de foutus trucs, je vous jure.
Bienvenue dans l'émission Mot à mot, l'émission société et politique qui donne la parole aux jeunes. Que pensent-ils de notre société, de la politique actuelle? Quel est leur ressenti par rapport à leur environnement? Quelles sont leurs attentes, leurs envies? Et se sentent-ils vraiment concernés par les discours politiques? Aujourd'hui, nous recevons Kevin. Tout de suite, la présentation.
Bonjour, du coup moi c'est Kevin, j'ai 26 ans, je suis étudiant en sound design en première année à CFA Multimédia sur Montpellier et j'ai un double emploi pour pouvoir payer justement cette formation qui me revient relativement cher. Voilà, je crois qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire sur mon compte.
Le nom de famille, je suis désolée, j'ai oublié de le citer.
Giraud.
Giraud, Kevin, ouais. Giraud. 26 Kevin ans. Giraud.
C'est ça, tout à fait.
Et du coup vous travaillez, vous faites des études en même temps?
Absolument, ouais. J'ai deux emplois, je fais 55 heures par semaine en moyenne parce que finalement c'est jamais les mêmes semaines, mais ouais, j'ai pas le choix de toute façon. Donc,
du coup, j'imagine que c'est compliqué à gérer les deux statuts.
C'est compliqué à gérer administrativement, surtout pour l'emploi du temps. Ouais. Il y a des fois c'est un peu rude, mais sinon ça va, je m'en sors.
Et quels sont vos objectifs professionnels?
Mes objectifs, c'est vraiment à terme en fait d'arriver justement après cette formation-là à travailler dans le son exclusivement, c'est-à-dire en fait c'est très large, hein, c'est un panel très large. On peut autant faire de la pose de son sur de l'image, que ce soit dans des jeux vidéo, sur des films d'animation, des films tout court, des séries télévisées, des trailers, des publicités. Ça peut être dans une radio, par exemple, ça peut être dans des prises de son, ça peut être... Enfin, c'est vraiment assez général quand même sur le son, c'est après à soi de voir jusqu'où on est capable d'aller et si on veut vraiment cibler ou si on reste ouvert à tout, quoi.
Et du coup, le travail que vous faites à côté de vos études, c'est en lien avec les études ou pas du tout?
Alors vraiment pas, ça n'a rien à voir. J'ai un premier emploi qui consiste à travailler le week-end en fait de 8h à 18h30 à l'hôpital de la Péronie, en fait, et dans la cafétéria, tout simplement. Et par contre, le soir, c'est en semaine, ça, ou le week-end, c'est aléatoire. Je m'occupe d'un monsieur qui est triplégique, qui a 64 ans et qui a eu un accident de moto à l'âge de 23 ans.
Vous touchez à tous les domaines, en fait.
Le truc, c'est que j'ai déjà été mené dans ma vie à travailler avant ça dans d'autres domaines encore. Donc, j'avais travaillé un peu dans la peinture, un peu dans les ambulances. Donc, ouais,
c'est la rubrique actualité. Quel est votre rapport aux médias d'information? De quelle manière vous vous informez?
Alors j'ai tendance à un petit peu sélectionner en fait mes sources sur internet souvent, parce que j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à donner une vraie crédibilité à l'information télévisuelle en fait. Et je trouve qu'elle est beaucoup trop bridée chez nous et que c'est vraiment très sélectif, on nous montre vraiment ce qu'on a envie de nous montrer, je trouve ça un peu gênant. C'est-à-dire que si on a envie de noyer le poisson par exemple, on va nous parler d'un sujet totalement inintéressant que je considère être un fait divers plus qu'un véritable fait de société. Et on va en faire un fait de société finalement à la longue, quoi, parce que ça va prendre une ampleur démesurée par rapport au problème réel, quoi, par rapport à ce que ça implique vraiment dans notre société, quoi. Donc j'y porte pas grand intérêt, je vous avoue, moi, BFM TV et compagnie.
Et du coup, les médias web, ce sont lesquels?
Alors, il y en avait un que j'aimais beaucoup passer un temps, et bien évidemment, le nom m'échappe maintenant. C'était Vice. Vice, en fait, parce que je trouvais que vraiment, avec eux, ils couvraient... En fait, si vous voulez, c'est assez large, en fait. Ils couvrent plein de domaines. Il y a plusieurs types de Vice, en fait. Et il y a des Vice qui vont mettre des conneries, en fait, concrètement. Et certains qui vont vraiment aller chercher des informations auxquelles on n'a pas forcément accès. Et les prendre peut-être avec un peu moins de... Avec un rapport peut-être un petit peu plus objectif, je dirais. Un petit peu moins...
Un petit peu moins centré sur un
ouais, je dirais que c'est un petit peu plus impartial, un peu moins partial, ouais, exactement.
Et du coup, ce sont des journalistes aussi ou c'est...
Alors, je ne me suis pas forcément renseigné sur ça. Il me semble qu'à la base, en fait, c'était vraiment pas parti de ça, mais qu'à la longue, ouais, bien, bah, c'est comme tout, en fait. Hein, c'est quand il y a un média qui finalement commence à devenir un petit peu intéressant de ce point de vue-là, on essaye de remettre la main dessus, justement, donc c'est un peu gênant, quoi.
Mais bon. Et du coup, quel style d'actualité, quelle thématique vous intéresse dans l'information ?
Moi, ce qui m'intéresse le plus, en fait, c'est quand on prend les problèmes dans leur ensemble. C'est quand c'est plus global. C'est-à-dire que, par exemple, on va nous parler de, j'en sais rien, moi... on va nous parler, par exemple, de la retraite. Bon, la retraite, c'est un véritable problème, on est d'accord. Mais on va nous parler, par exemple, de la retraite d'un certain type de personne. On va nous parler de la retraite chez nous. On va pas nous parler de comment on en est venu là et de quelles sont les vraies solutions, en fait. On va pas reprendre le problème à la base, on le prend tel qu'il est aujourd'hui, en se disant, bon, ben voilà, dans l'état actuel des choses, ce qu'on peut faire, c'est vous travaillerez jusqu'à 67 ans, puis vous jusqu'à 70, puis les prochains, si vous y avez droit, tant mieux, quoi.
Ça vous inquiète un petit peu, ces thématiques, pour vous, pour votre avenir ?
Est-ce que ça m'inquiète ? Moi, personnellement, non. Parce que j'ai toujours... je suis quelqu'un d'assez débrouillard, je pense. Je pense que j'arrive quand même à m'adapter un petit peu aux circonstances. C'est pas toujours évident, mais je le ferai. C'est-à-dire que si on doit faire comme les Américains et prévoir notre retraite, je le ferai. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où ça devient compliqué. C'est-à-dire que, par exemple, on vous annonce ça, vous êtes âgé de 60 ans. Vous faites comment pour vous retourner ? Enfin, je veux dire, il reste plus grand-chose quoi, pour mettre de l'argent de côté. Ouais, là, ça devient compliqué. Enfin, je sais pas.
Est-ce que, à part la thématique de la retraite qui est importante, est-ce qu'il y a d'autres thématiques qui vous touchent, qui vous intéressent ?
Il y en a énormément, en fait. Mais je dirais que c'est vraiment des trucs beaucoup plus généraux que ça. C'est-à-dire que finalement, quand on regarde, il y a beaucoup de choses qui, aujourd'hui, sont des répercussions de faits beaucoup plus ciblés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, les personnes qui finalement décident de ce qui va se passer, clairement, c'est plus vraiment nos politiques à nous, en fait, parce qu'ils sont un petit peu bridés, même beaucoup bridés. C'est-à-dire que finalement...
Quel sens vous mettez sur ce mot bridé ?
Ben, ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre parce que finalement, la politique aujourd'hui, c'est un petit peu faire ce qu'on nous a demandé de faire, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui disposent des moyens financiers, qui disposent des moyens, de réels moyens de pression, en fait, si vous voulez, sur nos politiques à nous, depuis bien longtemps, déjà avec les banques. Enfin, quand on regarde qu'aujourd'hui, par exemple, on est obligé d'avoir un compte dans une banque. C'est un partenariat qui a été fait entre les banques et l'État, mais qui finalement aujourd'hui c'est complètement retourné contre l'État, parce qu'à la base, je suppose que ça a dû être présenté comme si tout le monde a un compte, on va pouvoir contrôler les ressources et du coup vous pourrez faire vos impôts. Et puis finalement aujourd'hui c'est les banques qui ont les moyens financiers et les moyens de pression aujourd'hui sur les politiques pour leur dire ah non mais ça nous va pas, donc on va plutôt passer par un moyen un petit peu plus adaptés à nos conditions, en fait. Enfin, je veux dire, on va prendre le cas des grandes banques américaines, même européennes. À chaque crash boursier, faut pas se mentir, hein, ils sont sortis gagnants. C'est nous, les petits gens, qui finalement avons payé et remboursé cette dette-là, quoi, qu'ils ont eux-mêmes créée. Donc, enfin, je veux dire, quand on voit que cette politique est absolument absurde, faut pas se leurrer. C'est parce que finalement, y a des personnes qui ont intérêt à le faire comme ça. Et je suppose que forcément, il y a des moyens de pression pour obliger des personnes qui n'auraient pas forcément envie de le faire à le faire comme ça aussi. Donc, aujourd'hui, c'est facile d'écraser les petits, hein, quand on est déjà bien en place, je pense. Mais vraiment.
Et selon vous, ce sont ces mêmes genres de personnes qui contrôlent aussi les médias, vu que vous nous parlez de bride depuis tout à l'heure. C'est aussi eux qui tiennent la bride des médias ?
Je dirais que par répercussion, oui, en fait, indirectement, du coup... puisqu'on va dire, admettons que ce soit les politiques qui les dirigent, les médias, de toute façon, vu que ces politiques vont avoir déjà une ligne d'action, on va dire en partie au moins calquée sur ces directives-là, indirectement, forcément, d'une certaine manière, oui. Enfin, ça me semble presque évident.
Et vous ne nous avez pas parlé de la presse écrite. Est-ce qu'elle souffre pour vous des mêmes maux que la télévision ?
Alors ça dépend, c'est-à-dire que dans la presse écrite, on a un petit peu ce qui se passe sur Internet quand on a une nouvelle source d'information un petit peu moins connue, qui a, on va dire, plus de marge de manœuvre, parce que justement, pour l'instant, ils sont encore assez petits, ils ne commencent pas à faire de bruit. C'est-à-dire qu'on a des petits journaux, parfois locaux, ou je ne sais pas, enfin, des petits trucs indépendants. Souvent, c'est là-dedans qu'on va retrouver peut-être de l'information plus... peut-être plus pur dans la façon dont c'est pensé et écrit, même si des fois ça suit les grandes sources qu'on a eues à droite, à gauche, au moins dans la façon dont c'est écrit, il y a peut-être plus de liberté, ouais, je dirais.
Et concrètement, ça ressemblerait à quoi cette façon d'écrire qui se différencie un peu ?
Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal, en fait, dans l'information, à être véritablement honnête avec soi-même. Déjà, quand on fait des formations là-dedans, en fait, dans la communication, dans le journalisme, on nous apprend à jamais vraiment donner notre avis, tout en prenant une position sans vraiment le dire, en fait. C'est-à-dire que, voilà, ça, on sait qu'il ne faut pas le dire parce que c'est politiquement incorrect. Mais finalement, il y a des fois, ce politiquement incorrect, c'est quasiment de la censure, en fait. C'est une façon de dire, ça, tu n'as pas le droit de le dire. Donc, vu que tu ne peux pas le dire, ça n'apparaîtra jamais. Je trouve ça à la limite de l'absurde, parce que finalement, aujourd'hui, je pense que on serait tous en mesure de vraiment sélectionner nos informations et de faire nos choix. Je veux dire, c'est comme quand on prend des livres de philosophie. Il y en a certains qui se contredisent vraiment, mais à 100%. Et on se rend compte que finalement, dans les deux, il y avait des idées qui étaient valables et d'autres qui sont infondées. C'est à chacun de faire ses propres choix. Je pense que dans la vie, il y a vraiment de ça. On a tous besoin de penser par nous-mêmes. Et que de la philosophie, justement, on n'en a peut-être plus assez sur bien des sujets et à bien des égards, en fait. On a tendance à vraiment se calquer sur... c'est comme ça, donc c'est un fait établi. Mais finalement, non, en fait. Il y a très peu de choses qui pour moi... mérite qu'on se permette de dire c'est un fait établi à 100%, ça n'évoluera jamais, c'est comme ça. Je veux dire, d'accord, 2 plus 2, c'est de la logique, ça fait 4. Mais il y a beaucoup de choses qui finalement ne sont pas si vraies que ça.
Sujet politique.
Donc à 26 ans, vous êtes l'invité le plus âgé, si j'ose dire, qu'on ait reçu. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir un peu plus de recul sur tout ça ? Bon, le début de l'émission nous l'a un peu prouvé, mais si vous deviez vous positionner, justement.
Je ne peux pas me permettre de vraiment dire ça, parce que finalement, comme je dis, c'est vraiment un point de vue. C'est-à-dire qu'un point de vue... je vais reprendre cette fameuse citation qui est un peu vulgaire, mais qui m'a fait vraiment rire, de Clint Eastwood, qui dit les points de vue, c'est comme les trous du cul, quoi. Tout le monde en a un. Et je pense que c'est à chacun de se forger le sien et qu'il n'y en a pas un qui soit plus vrai que l'autre, en fait. C'est un petit peu ce que je vais revenir sur. Enfin, ça fait vraiment écho à ce que je disais. Je peux très bien être totalement dans le faux, hein, dans ce que je dis. Il n'y a rien qui prouve que j'ai raison. Mais il n'y a rien qui prouve non plus que j'ai tort. Et après consultation avec moi-même, je suis en plein accord avec ce que je pense. Ouais. Ça, c'est sûr.
Et pour vous, donc, il y a une sorte d'uniformité dans la politique actuelle, peut-être une mise en scène même ?
Je trouve que... en fait, c'est vachement plus marqué depuis, je dirais, depuis le quinquennat de Sarkozy. C'est-à-dire qu'avant, on le voyait moins, en fait. Depuis cette fameuse campagne où on a eu, à la suite de cette campagne, le premier quinquennat de Sarkozy, en fait, il y a eu une américanisation aussi de nos politiques. Autant dans la façon de faire des campagnes un petit peu, vous savez, comme si qu'on était en train de faire un show, en fait, mais vraiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus politique, on fait du stand-up un petit peu, du one-man show, un petit peu comme l'a fait Barack Obama pour sa première campagne et pour la seconde aussi. Et il y a un truc qui, du coup, est devenu cruellement... qui est devenu de l'ordre de l'absurde et qui vraiment me surprend. Il y a un truc qui vraiment me surprend. On aurait presque... Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui réalisent pas, en fait, qu'on s'insurge même pas devant ça. Mais aujourd'hui, en fait, une campagne électorale consiste plus vraiment à préparer un véritable programme et à proposer quelque chose. C'est-à-dire que finalement, les programmes aujourd'hui, ils sont assez courts. Il n'y a pas énormément d'idées, pas énormément de sujets traités. On est dans la simplicité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être meilleur que son adversaire, au lieu de proposer une idée meilleure que la sienne, on va détruire son idée. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte qu'il soit moins bon que nous, au lieu de faire en sorte d'être meilleur que lui. Je trouve que c'est vraiment... ça me rappelle ce que j'aurais fait en cours de récréation, quoi, peut-être. Donc, bon, j'extrapole la chose. Mais
Et du coup, vous comptez aller voter ou pas pour les présidentielles?
Alors, honnêtement, non. Pour une simple et bonne raison, il y a un truc que je ne comprends pas. Mais vraiment, on ne peut pas justifier de demander aux gens de voter, même pour voter blanc. Et qu'à la suite de ça, ces votes blancs ne soient pas comptabilisés dans les résultats finaux, en fait. C'est quelque chose qui finalement... Mais ne dépend d'aucune logique. À quoi ça rime? Je veux dire, c'est comme si moi, demain, j'allais faire mes courses pour arriver à la caisse et dire à la dame « Non, je voulais juste savoir combien ça ferait, je m'en vais, au revoir. » Elle va être très surprise. J'avais pas forcément besoin de faire un caddie et de passer à la caisse pour ça.
Ce qui vous dérange, c'est l'idée du vote blanc ou le fait que ça soit pas comptabilisé?
C'est absolument pas l'idée du vote blanc, parce que si, par exemple, le vote blanc était, comme dans certains pays d'Amérique latine, comptabilisé, je pense que là, je ferais l'effort. Au moins pour montrer que je fais partie de ces gens-là, enfin pour faire partie de ces gens-là qui poussent un petit peu un coup de gueule justement contre la politique.
Du coup, un vote blanc, d'accord, mais il y a quoi derrière? Il y a quoi derrière ce vote blanc pour vous?
Il y a une vraie symbolique. Il y a une symbolique de dire, admettons, ok, on est plus que 40% des personnes, enfin de l'électorat, à ne pas aller voter. Mais nous sommes 40% de ces personnes-là à voter blanc. Quelle est la signification, enfin, quelle est la différence pour vous? C'est plus on est 40% de personnes qui n'en ont rien à cirer. Non, on est 40% de personnes qui montrent qu'on est en total désaccord avec la politique dans son ensemble, en fait. Dans la façon dont tout ça est mené de A à Z, que ce soit à gauche, à droite, au milieu, au centre. On n'en arrive même plus à faire une différence dans ça, parce que finalement, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. On se demande presque s'ils ne sont pas tous cuits et chemises, quoi. À se tirer dans les pattes et à faire... Bon, je sais pas... Je fabule peut-être, mais enfin voilà, je trouve ça vraiment décevant en fait.
Tout de suite, la question finale.
Si vous deviez nous citer quelqu'un qui vous inspire, une personnalité, quel que soit le domaine, vous aimeriez terminer sur qui?
Ça, c'est une très très bonne question. Une personne qui m'inspirerait vraiment. En fait, on peut s'inspirer de beaucoup de personnes, quoi. Je pense qu'on a tous du bon à proposer et du mauvais. Il n'y a personne qui soit parfait, finalement. Le parfait n'existe pas. Je pense que dans la vie, ce qu'on a tendance à considérer comme le parfait, ce serait plus l'équilibre, en fait. C'est-à-dire ni trop de blanc, ni trop de noir pour faire un gris qui soit bien, quoi. Ni trop de chaud, ni trop de froid pour qu'on soit à la bonne température. Enfin, je sais pas si vous comprenez l'idée, mais... non, il y a personne... Enfin, il y a des personnes dont certaines idées vont m'inspirer, mais une personne en particulier dont je vais me dire il est irréprochable ou... J'arrive pas à me fixer cette idée-là, c'est-à-dire que j'ai même pas cette idée-là de ma propre mère, quoi, donc...
Une personnalité qui vous inspire, qui vous a touché, qui vous a touché, que ce soit dans le son,
la
philosophie...
Une personne, en fait, qui m'a intrigué, qui m'a inspiré, mais pas par sa personne, mais vraiment par la situation, ça a été l'ancien président de l'Uruguay, en fait. Mais vraiment pour la situation, parce que je trouvais ça vraiment génial que ce mec-là, président de l'Uruguay, soit un vieil homme, tout simplement fermier, qui vivait encore dans sa ferme, agriculteur, qui touchait un salaire basique, médian, il touchait vraiment un salaire moyen, quoi, par rapport au salaire de l'Uruguay, au niveau de vie qu'il y a là-bas, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça fabuleux, j'ai trouvé ça génial, parce que c'était quand même au début du 21e siècle. Il me semble que son mandat s'est arrêté aux alentours de 2010. Et je pense que ça a été vraiment un truc très, très, très fort pour moi, dans la mesure où là, pour le coup, je me suis dit, peut-être que dans ce pays, il y a une vraie politique. C'est peut-être un des rares pays où il y en a peut-être une, quoi. J'ai trouvé ça vraiment génial.
Ben on va finir sur ces petites notes de sagesse. On remercie Kevin et on se retrouve la semaine prochaine sur Divergence FM. Mot à mot. Mot à mot.
Tu dois dire A, c'est ça?
Tu mets. Ouais, je dis mot, tu dis A mot. Et après, tu dis mot et je dis A mot.
Ah bon, mais il avait dit A.
Je trouve que c'est super comme philosophie.
Mot à mot ou mot à mot.
Nous sommes tous pour autant que ces mots aient un sens précis.
Mot à mot.
Il n'y a que deux syllabes qui valent la peine d'être prononcées.
Tu parles sans avoir la moindre idée de ce dont tu parles.
Y a pas de mots pour dire ce que vous êtes. Y a plus de mots.
Vous m'avez dit un tas de foutus trucs, je vous jure.